Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Cette émission vous est présentée avec la lumineuse participation de Arthur Kears, Amodeo, Anthony Marquez, Alexandre Arrigui, Obi Tou, Note Pierre 2, Antoine, Jichumi, Nicolas Marquez et Réa. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission bimensuelle où on parle technologie, internet et gadgets. C'est notre mantra qu'on répète depuis plus de 5 ans maintenant et que vous connaissez par cœur, je n'en doute pas. Nous sommes en décembre 2014, c'est l'épisode numéro 148 déjà. Et on va parler aujourd'hui de choses assez intéressantes, comme à chaque fois, hein, ça change pas non plus. On va parler en particulier du gros hack de Sony Pictures Entertainment qui a fait les choux gras de la presse tech et même non tech depuis, ça doit faire 2 ou 3 semaines, et ça va de mal en pire, c'est de plus en plus gros toute cette histoire, vous allez voir, c'est une véritable saga. On va aussi parler un petit peu du Web 2014 qui s'est tenu à Paris la semaine dernière, et de la nouvelle version de Windows qui sera disponible pour tout le monde d'ici quelques semaines. Et on aura bien sûr ensuite nos news et rumeurs comme d'habitude. Mais aujourd'hui, enfin avant ça, je vais quand même présenter les deux co-animateurs qui vont m'aider à décortiquer, à expliquer, à simplifier toutes les histoires de tech. Comme tous les deux épisodes, j'ai mon camarade de jeu Jeff Clavier qui est avec nous depuis San Francisco. Comment vas-tu, Jeff ?
Eh bien, écoute, ça va bien. De retour de Paris, où j'ai passé une semaine pour le web, donc on en parlera un petit peu plus tard. On a eu aussi le plaisir de faire notre déjeuner annuel, donc j'ai vu Patrick face à face et non pas par Skype interposé. Et on se prend une tempête de flotte de folie à San Francisco et on a besoin de l'eau, donc on est content.
Oui, comme donc c'est la joie. Ouais, d'accord, voilà, je vois. Écoute, à Paris, il fait plutôt chaud pour un mois de décembre. Enfin, chaud peut-être pas, mais il fait pas horriblement froid. Donc ça va aussi. Et Mike de Niptech, qui nous rejoint dans cette session du Rendez-vous Tech. Comment ça va, Mike ? Tu viens de finir l'enregistrement de Niptech, j'ai suivi la fin du live.
Oui, je viens de finir, mais voilà, je saute dans le rendez-vous tech. Oh, ben, il y a tech dans les deux podcasts, donc ça va bien. Et oui, ben, moi, je suis en Suisse, hein, comme vous entendez l'accent, et j'étais dans les montagnes hein, ce week-end, et il n'y a pas encore de neige dans les montagnes suisses, hein, ce qui est un grand scandale pour un mois de décembre. Mais en fait, tout va bien. Et je suis vraiment content d'être là. Et je vais te raconter la petite histoire. Pourquoi ?
Vas-y,
parce que j'étais en voyage récemment, en vacances avec ma femme, et on devait faire une heure et demie de route. Et je lui dis, bon, je suis d'accord de faire cette heure et demie de route, mais j'ai le droit d'écouter les podcasts que je veux. Elle me dit, OK. Et j'ai dit, bon, bah, alors voilà. Et je mets justement le rendez-vous tech. Je me dis, bon, une heure et demie, voilà, ça va suffire. Et voilà que pour la première fois, ma femme a réussi à s'intéresser à la tech en disant, mais vraiment, Patrick, il parle bien et tout, c'est intéressant, puis c'est pas trop compliqué. Donc, je me réjouis parce que grâce à toi, je vais pouvoir lui faire écouter un deuxième podcast tech parce que moi, elle m'a jamais écouté.
Mais écoute, merci, ça me fait super plaisir ce que tu me dis, d'autant plus que la mission du rendez-vous tech, au-delà de l'information, enfin de l'amusement, parce que moi ça m'amuse de parler de tout ça, il y a aussi une mission presque sociale, c'est d'expliquer ces sujets hyper importants aux gens « normaux », entre guillemets. Donc si ça fonctionne avec ta femme, c'est bien, d'autant plus qu'on va voir dans la partie news et rumeurs qu'il y a des choses hyper intéressantes qui se passent et des gens dans des positions plutôt importantes qui ne comprennent pas tous ces sujets tech tellement, tellement importants. Donc, bon, on en parlera aussi. J'espère qu'elle écoutera cet épisode également.
J'espère aussi.
Bon, on va commencer avec Sony et ce hack absolument monumental qui a eu lieu il y a quoi ? Ça doit faire 2 semaines, à peu près, 2 semaines et demie. Je crois qu'il avait commencé, en fait, avant même l'enregistrement de l'épisode précédent. Non, c'était juste après. C'était genre un ou deux jours après ou le jour même. Et même à ce moment-là, je me disais, bon, OK, Sony Pictures Entertainment s'est fait hacker. Ils ont eu accès aux données de la société. Bon, c'est pas la fin du monde. Ça arrive de temps en temps. C'est un petit hack comme ça. Et puis voilà. Et puis, l'histoire n'a pas cessé de grossir au cours des 15 jours avec des histoires de responsabilité de gouvernement oppressif nord-coréen, de données sur tout le Gotha d'Hollywood, d'informations privées qui sont sorties, de Sony qui essaye de faire des attaques de déni de service sur les serveurs qui hébergeaient ces données volées, des histoires de responsables qui avaient annoncé fièrement qu'ils ne voulaient pas mettre à jour leur infrastructure ou en tout cas leur système de protection informatique parce que ça aurait coûté trop cher au sein de Sony. Enfin bref, c'était une histoire invraisemblable. Je vais donc maintenant vous la conter comme j'ai l'habitude de le faire. Et on va en discuter un petit peu après et surtout discuter de ce que ça veut dire. Alors, d'abord, il faut savoir que la société qui a été victime de ce hack, c'est Sony Pictures Entertainment, qui est une société au sein de la nébuleuse Sony et qui a évidemment assez peu à voir avec les autres sociétés Sony comme le constructeur d'électronique, la partie qui s'occupe des jeux vidéo, etc. etc. Donc c'est vraiment la partie film qui a été hackée. C'est un hack dont on ne connaît pas exactement les détails, mais qui a permis aux attaquants de récupérer absolument tout ce qu'il y avait sur tous les ordinateurs de cette société. On parle de tous les ordinateurs personnels, sans doute de serveurs également. Et pendant les premiers jours, on entendait des explications selon lesquelles les employés de Sony ne pouvaient même plus utiliser leurs emails, n'avaient plus accès à leurs comptes et avaient comme instruction de ne plus utiliser leurs emails ni leurs ordinateurs parce qu'ils avaient été infectés. Et donc, ils n'ont pas pu travailler pendant plusieurs jours et on se rend compte à quel point exemple de l'importance de la protection de ces systèmes parce que à partir du moment où on se dit « bah merde, on est hacké, on ne peut plus rien utiliser », eh ben on ne peut plus travailler. Et ça a duré plusieurs jours chez Sony. On a commencé à se demander « mais d'où est-ce que ça pourrait bien venir ? Est-ce que ça serait tel groupe ou tel groupe ou tel groupe ?» Et la théorie qui a prévalu pendant quelques jours, et même presque une semaine, c'était que c'était une attaque du gouvernement nord-coréen ou d'une cellule financée ou encouragée par le gouvernement nord-coréen parce que Sony est en train de faire la promotion et va bientôt, dans quelques jours maintenant ou dans une ou deux semaines, va bientôt sortir un film qui s'appelle The Interview, qui est un film, une comédie avec Seth Rogen, etc., sur des agents de la CIA qui veulent assassiner Kim Jong-un. Et donc, le gouvernement avait déclaré que c'était une attaque claire sur le gouvernement. Et donc, on s'est dit, ah, voilà, donc ils pensent que c'est une attaque. Donc, c'est eux qui ont hacké Sony pour se venger. On a vu au cours des jours et des qui ont passé que a priori c'était assez peu probable. Et d'ailleurs, au fil du temps, après quelques jours, le gouvernement finalement nord-coréen a dit « Non, 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 finalement, c'est pas nous. » Au début, il disait « Bon, on dit pas que c'est nous, c'est pas nous, mais même si c'est pas nous, en fait, c'est plutôt bien parce que c'est un film inacceptable, c'est un film terroriste, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Finalement, ils ont dit « Non, non, c'est pas nous, mais c'est quand même une bonne chose que Sony ait été hacké. » Ok. Deuxième élément, c'était la Corée du Nord ou pas. Troisième élément, les informations qui sont disponibles, qui étaient disponibles sur tous ces serveurs, c'est absolument toutes les informations que détient Sony Pictures. Et il y a deux ou trois choses à prendre en compte. La première, c'est qu'il y a énormément d'informations sur les employés de Sony, mais aussi les gens avec qui ils traitent. Et les gens avec qui ils traitent, ça peut être, et c'est souvent, des célébrités, des acteurs, des producteurs, des gens qui font partie d'Hollywood et des gens qui sont, qui ne voudraient vraiment, vraiment, vraiment pas avoir ces informations rendues publiques. Et quand on parle d'informations, il y a d'autres choses dont je vais parler après, mais là, je parle de numéro de sécurité sociale, d'adresse, etc., etc., ce genre de choses. Donc, déjà catastrophique au niveau relations publiques pour Sony. Parce que vous imaginez, si je suis un acteur et que je veux traiter, je veux faire un film ou que je veux traiter avec une société plutôt qu'une autre, je vais peut-être y réfléchir à deux fois maintenant avant d'aller chez ces abrutis de Sony qui ne sécurisent même pas leur, leur serveur et qui n'importe quelle donnée que je vais envoyer pourrait, être, pourrait se retrouver à la merci de n'importe qui. Je paraphrase les célébrités hein, maintenant. Ce n'est pas moi qui dis ça, bien sûr. Mais bon, on peut imaginer que ça pourrait arriver. Donc, pour, au niveau de la confiance déjà, c'est catastrophique pour Sony là aussi. Ensuite, toujours au niveau des informations sur les acteurs connus et les gens connus en général, toutes les informations sur la manière dont ils font leur business et sur leurs demandes, ce qu'ils exigent, les contrats, etc., a été rendu public aussi. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais c'est évident, les hackers en question ont livré, ont publié une énorme partie de toutes ces informations qu'ils ont récupérées et ils continuent à le faire. Donc, ils ont la deuxième partie de ces informations dommageables, c'est que on a eu des histoires un petit peu, enfin c'est un petit peu le linge sale de Sony et des acteurs du genre James Franco qui demande tant pour aller à une journée de, c'était une, pour un meeting il avait besoin de 5 000 $ ou se faire conduire de tel, enfin bref, c'est des trucs limite sordides, bon pas vraiment sordides, j'exagère, mais vraiment des détails qui a priori ne devraient intéresser personne ou ne devraient arriver aux oreilles de pas grand monde, dont tout le monde maintenant est au courant, des histoires avec Angelina Jolie, des histoires sur la fin du film sur Steve Jobs, enfin des trucs de business qui devraient a priori n'appartenir qu'à Sony, mais dont se régalent aujourd'hui la presse et les fans. Et enfin, il y a des choses un petit peu plus sérieuses que tout ça qui ont aussi été révélées, comme par exemple le fait que la MPAA, donc l'association des producteurs de films de Hollywood, des États-Unis, a un projet, et sans doute d'autres projets, mais l'un de ces projets, c'est le projet Goliath, qui est prévu pour combattre Google, le G vous donne une petite indication dans le nom là, pour combattre Google, et surtout la piraterie informatique, avec, en partie dans leur plan, ils ont un plan d'envergure pour payer, enfin, aller un petit peu au-delà du lobbying et influencer le Congrès et les gens qui font les lois aux États-Unis pour ressusciter un petit peu les projets de loi qui ont été abattus il y a quelque temps. Je parle bien sûr de SOPA qui a été annulé au dernier moment grâce à un soulèvement de l'Internet et qui aurait été extrêmement restrictif pour Internet dans leurs efforts de combattre les copies illicites qui circulent sur Internet. Et bien là, il y a eu des détails sur des nouveaux projets un petit peu équivalents à tout cela. Et je finis toute mon explication, qui vous comprenez, c'est une ampleur énorme, surtout une visibilité énorme dans le monde, et en particulier aux États-Unis et en particulier en Californie, en disant que les problèmes de sécurité ont été non seulement, comme souvent dans ces cas-là, signalés à l'avance à Sony, qui n'en a eu que faire, et qui n'a pas accepté de mettre à jour leur infrastructure pour combler les trous de sécurité. Mais en plus de ça, il y a 2 ou 3 ans, le responsable de ce secteur de Sony avait annoncé presque fièrement qu'il ne voulait pas mettre à jour leur système de sécurité parce qu'ils disaient « je ne veux pas faire une mise à jour qui nous coûterait 10 millions de dollars pour le cas où on aurait un petit problème qui nous coûterait 1 million de dollars si jamais il arrive ». Et évidemment, c'est un calcul qu'on peut comprendre en théorie, mais enfin, ce qu'ils n'avaient pas pris en compte, c'est la quantité d'image, enfin la manière dont ça impacterait l'image publique de Sony, et surtout le fait de dire ça et le fait de le faire, mais encore plus le fait de le dire, ça peut ouvrir la porte à des procès monumentaux parce que les personnes qui ont été victimes de ces disséminations d'informations privées peuvent se dire « bon, bah, on va faire un petit procès à Sony parce qu'ils n'ont pas rempli leur rôle et leurs obligations dans ce domaine-là ». Donc, enfin, c'est à mon sens, on a déjà entendu des histoires de hack importantes, mais à mon sens, de par le fait qu'elle est tellement publique par la nature des informations et de par la catastrophe totale dont ils ont fait preuve dans leur gestion de leur sécurité, fait que c'est le plus gros hack sans doute au moins de l'année et peut-être depuis encore plus longtemps. Et je passe sur le fait que les employés de Sony ont aussi des informations à eux qui sont en train d'être diffusées. Et les fameux hackers qui se font appeler les Guardians of Peace, les gardiens de la paix, qui disent que la raison pour laquelle ils ont fait ce hack, c'est à cause du fameux film The Interview et qu'ils veulent corriger le tort que cause Sony à la Corée du Nord. On se doute, enfin, on imagine que ce n'est pas tout à fait pour ça qu'ils ont fait ça à la base. Et donc ces gens-là, on dit, bah, si jamais vous êtes un employé de Sony et que vous ne voulez pas qu'on diffuse vos informations, envoyez-nous un message avec les détails hein, pour le faire. Envoyez-nous un message et on ne livrera pas vos informations à vous, mais tous les autres, on le fera. Enfin, c'est un petit peu bizarre toute cette histoire. Bref, je conclue donc cette longue explication et je me retourne vers vous deux pour savoir ce que vous en pensez de toute cette histoire et les conclusions que vous en tirez. On va peut-être commencer par Jeff, qui lui est au cœur justement de toutes ces sociétés où j'imagine la sécurité est une évidence. Donc pour nous aussi un petit peu, mais bah, comment est-ce que tu regardes tout ça, toi ?
C'est une évidence, sauf que tu as toujours la sensation de pas faire suffisamment. Et bon, on a eu l'incident Target où des dizaines de millions de cartes de crédit ont été volées. On entend en fait quasiment tous les deux mois. Mais surtout, je dirais, la désinvolture avec laquelle Sony a éviter le problème et ensuite traiter le problème, c'est-à-dire le fait de ne pas mettre en place une infrastructure moderne niveau sécurité pour économiser 10 millions de dollars, sachant que quand j'entends les mots numéro de sécurité sociale, etc., etc., contrat, etc., etc., je veux dire, c'est incroyable. Et j'espère que le gus en question s'est fait hacher menu avant de se faire virer. Malheureusement, la sécurité est un secteur où tu as toujours l'impression que, quels que soient les investissements, quelles que soient les dépenses que tu fais, c'est jamais suffisant, parce que la sophistication des hackers est telle maintenant que bah, ils arrivent à passer au travers de technologies modernes. Mais en même temps, quand tu commences à gratter, tu te rends compte que c'est toujours le gus qui a mis un mot de passe à la noix ou qui a mis 1, 2, 3, 4, 5. On faisait une blague juste avant de commencer l'émission en disant « Mais c'est quoi le problème de 1, 2, 3, 4, 5 ?» et j'ai un copain qui était beaucoup plus malin parce qu'il mettait 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5.
non, mais c'est...
Tu as toujours des problèmes comme ça où ce sont les choses les plus bêtes qui créent en fait des portes d'entrée béantes dans ton système de sécurité pour les hackers.
C'est marrant parce que, enfin, il faut préciser quand même qu'en l'occurrence, on ne sait pas exactement comment a été fait le hack de Sony, mais il semblerait que il y avait effectivement des niveaux de protection extrêmement, extrêmement faibles, c'est-à-dire beaucoup plus faibles que ce qu'on serait en droit d'attendre d'une société normale. Donc, visiblement, il y avait de vrais problèmes spécifiques chez Sony, dans ce cas particulier. Mais oui, c'est vrai que d'une manière générale, la sécurité informatique n'est pas une chose qui est prise très au sérieux par les sociétés. Et enfin, bon, je dirais ce que moi je pense de tout ça un petit peu après avoir donné à Mike l'occasion de répondre aussi. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça ?
Bon, en tant que consommateur, on l'entend tellement souvent, comme Jeff l'a dit, qu'on finit par s'habituer. Alors moi, j'ai dans l'esprit, je me souviens peut-être, il y avait eu un hack de la PlayStation ou des mots de passe de la PlayStation, si
oui,
je ne me souviens pas.
Il y a deux ans ou trois ans.
Alors, je me disais, ah, Sony hack, j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, bah voilà, encore une fois, ils se font hacker. une chose qui est intéressante, c'est l'étendue du hack. Je lisais là que c'est 200, on parle de 200 gigas qui a été déjà mis en ligne, donc c'est énorme.
Et c'est qu'une partie de tout ce qu'ils ont récupéré. Ils ont récupéré. Ah oui, on l'a même pas dit. Ils ont récupéré les films aussi,
oui,
les films
oui,
même
les films.
Qu'ils ont mis en ligne sur les sites de partage.
Ouais, pas besoin d'attendre les Oscars.
C'est ça.
Oui, c'est vrai. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça touche vraiment Sony Entertainment. Je pense que ça intéresse beaucoup de médias. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément les stars. On se souvient des photos qui avaient été volées sur les iPhones des stars et mis après online. Ça, c'est vraiment des domaines un peu personnels que finalement tout en chacun aime lire dans la presse. Donc, mal tombé pour Sony parce que ce n'est pas forcément des trucs un peu corporate chiant, mais ça parle de stars auxquelles les gens s'intéressent. Donc là, ils n'ont pas de chance. Sur les trucs nord-coréens, une petite anecdote. En Suisse, on ne cache pas que l'or, mais on a aussi caché, comment il s'appelle, Kim Jong-un, le fils, qui finalement parle suisse-allemand, il paraît, parce qu'il a été dans une école privée à Berne, qui est un canton suisse. Pendant plus de 5 ans, il se cachait comme le fils du chauffeur de l'ambassade de Corée du Nord à Berne. Et donc, il a aussi vécu en Suisse et il parle de suisse-allemand. Donc voilà, ça, c'est pour la petite histoire.
D'accord. Donc, c'est important à savoir si jamais on voit des petites traces de suisse-allemand dans les codes des hackers. On saura que c'est Kim Jong-un qui était en train de coder le truc, oui.
Oui, mais moi, je trouve ça hallucinant. Je me dis, bon, pour une grande société comme Sony, de laisser passer ça. Après, en tant que consommateur, je me dis encore un... Est-ce que ça a un tel grand impact pour nous ? Je ne sais pas. Je me dis, il y a des États qui ont été hackés. On a vu que carrément avec Wikileaks. Donc voilà, Sony, c'est la prochaine sur la liste. Pourquoi pas ?
Mais c'est marrant parce que moi, j'ai peut-être que je suis naïf, mais j'ai l'impression que là, le hack est tellement gros, tellement important et tellement visible surtout que... Enfin, et tout le monde en a un petit peu entendu parler, j'imagine. Enfin, j'espère, mais... Je me dis, enfin, ça va réveiller certaines personnes qui n'étaient pas sensibles à ce genre de choses, ou au moins, on va pouvoir dire, mais regardez, enfin, si on y est sensible, et si on est un directeur IT désespéré dans notre société, et qu'on voit les pratiques désastreuses de certains de nos employés, ou, sans aller jusqu'aux pratiques désastreuses, mais le fait qu'il y ait des mots de passe trop faibles, qui ne soient pas changés régulièrement sur les ordinateurs de nos employés, parce que ça emmerde le tel directeur de tel truc qui ne veut pas s'emmerder avec les mots de passe qui changent, eh ben, si on est ce directeur informatique, on peut aller le voir et lui dire « Mais regarde, ça peut avoir des conséquences dramatiques, ce type de hack. » Alors oui, la sécurité maximum n'existe pas. On le sait bien, il y a toujours une chance que le hacker passe par le tuyau de la conduite d'aération de machin ou il passe par une fenêtre entrouverte, je parle en termes informatiques, hein, il trouve un petit moyen de rentrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lui laisser la porte ouverte non plus. Je veux dire, il y a quand même un minimum de protection à avoir. Mmh. Pareil pour la... Enfin, si on prend un exemple sur la vraie vie, on ferme nos portes à clé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais se faire cambrioler, mais il n'empêche qu'on ne laisse pas les portes ouvertes en partant le matin. Donc, je ne sais pas. Moi, pour moi, ce hack est tellement gros et tellement visible, j'espère que ça va provoquer au moins une mini-onde de choc dans le grand public pour que les gens se disent « Bon, ok, peut-être qu'il faudrait qu'on y prête un petit peu plus attention au moins à ces choses-là. » Et je finis, je vais te redonner la parole, Mike, parce que j'entends que tu veux parler. Quand je parle de ça, j'aimerais bien que tous les gens qui nous écoutent, là on parle dans la question de la mission sociale, tous les gens qui nous écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui avec vos téléphones sur votre ordinateur, où que ce soit.
Attends, t'as dit le mot baladeur ?
Oui, non, excuse-moi, je le biperai dans le montage.
Vous qui nous écoutez sur vos cassettes d'un Walkman.
Ou sur votre Argos.
Oui, exactement, c'est à peu près le même niveau. Pauvre Argos, on les aime bien. Oui. Toi qui m'écoutes, qui entends ma voix aujourd'hui, maintenant, tout de suite, toi qui m'écoutes et qui te dis « Oh, mais c'est bon, c'est pas grave, je sais que mon mot de passe, il n'est pas super complexe, mais bon, c'est pas très grave. Hein. » Eh bien, c'est à toi, et c'est toi qui es le problème, cher ami. Bon, j'exagère un petit peu, mais si vous pensez que c'est pas si grave d'avoir un mot de passe pas complexe, si vous pensez que c'est pas si important d'avoir une authentification double facteur ou ce genre de choses, vous avez de plus en plus, aujourd'hui et de plus en plus, toute votre vie en ligne. Tout est... Imaginez que vous pouvez perdre toutes vos photos, l'accès à votre email, votre compte Facebook, votre compte Twitter, vous pouvez tout perdre. Et quand je dis perdre, si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être récupérer les choses si vous vous faites hacker. Mais si vous n'avez pas de chance, il y avait un journaliste qui a publié un papier récemment là, sur les questions de sécurité Apple en disant bah, « Moi, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer sur mon compte avec mon compte iTunes, enfin mon compte Apple. » Et Apple est maintenant a tellement peur de ces questions de sécurité suite au hack des célébrités qu'il ne pouvait rien faire pour lui parce qu'il avait mis l'authentification double facteur, il avait fait différents trucs, enfin bref. Mais s'il avait perdu son accès, il lui disait bah, « On est désolé, monsieur, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas parce qu'on n'a pas le droit, c'est fini, on ne peut plus. » Et vous pourriez tout perdre. Donc, prenez la chose au sérieux dans votre vie professionnelle surtout, mais dans votre vie personnelle aussi. C'est hyper important. Voilà, j'ai fini mon petit... Alors,
j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'écouter et surtout qui vont faire quelque chose après t'avoir écouté. Moi, le premier. Moi, je pense que les sociétés, c'est comme les États. Ils comprennent, ou comme les humains en général, ils comprennent que quand ils perdent de l'argent. Et voilà, je pense que là, Sony va en perdre de l'argent. Comme tu disais, possiblement des procès, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que là, on le comprend. Je pense aussi les humains normaux, bah, ils se protègent quand ils ont eu un problème, souvent. On sait que souvent, on a pu se faire pirater notre carte de crédit ou notre numéro de carte de crédit, d'où on se dit, bon, bah, alors il nous faut un PIN sur notre carte de crédit, il faut faire attention où on la passe, il ne faut pas la donner à n'importe qui. Et je pense que c'est un peu du learning by doing. Je me dis, oui, on sait tout ce qu'il faut faire. On sait que, voilà, il faut mettre des deux authentifications, il faudrait recevoir un texto direct et le mettre aussi sur notre Gmail, ce genre de choses. Mais je pense que la technologie actuellement, elle n'est pas encore assez à niveau pour nous simplifier la vie. Et c'est quand même compliqué de changer de mot de passe. Alors, bien sûr, il y a des applications qui existent pour les gérer et qui sont de mieux en mieux. Mais je pense que...
LastPass, Dashlane, OnePassword, toutes ces applications. Et entre parenthèses... Oui, je dirais quelque chose après, vas-y.
Mais je dis, c'est plus à la technologie de nous aider dans ce problème plutôt qu'aux consommateurs d'y réfléchir.
Ouais, mais enfin, bon, c'est pas uniquement un problème de technologie, je veux dire, c'est une question de... C'est toujours le problème des autres, c'est jamais son problème à soi, parce que nous, on est... Parce que moi, je suis safe, parce que moi, j'aurais pas le problème. C'est vraiment la façon dont les gens le voient. Donc, c'est les gens sont feignants, les gens se disent « Oh ouais, c'est vrai, il faut que je change mes mots de passe. » C'est ce que je dis à ma chère étante qui a son mot de passe depuis 10 ans sur beaucoup de services. Je veux dire, à un moment ou à un autre, ça va lui tomber dessus. La meilleure chose, c'est d'avoir soit un LastPass, soit un service comme ça, soit d'utiliser un truc tout bête, c'est on crée un mot de passe unique pour chacun des services en mettant le nom du service plus le mot de passe dans le mot de passe. Comme ça permet d'avoir un truc différent. C'est pas difficile, c'est un moyen mnémotechnique. Bon, c'est une question c'est un tout petit peu d'effort, mais malheureusement les gens sont feignants.
C'est vrai que, en plus, comme je le disais tout à l'heure, la sécurité absolue plutôt, n'existe pas. Et même si vous faites tout ça, c'est vrai que vous aurez une petite chance de vous faire hacker quand même. On n'est jamais à l'abri de tout, mais il faut faire ceux auxquels je m'adresse, disons, le plus c'est, on en plaisante et on en rit, c'est les gens qui font des mots de passe genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou même genre le nom de quelqu'un avec une date de naissance, on en avait parlé il y a quelques temps, il y a des mots de passe qui ne sont pas assez complexes, tout simplement. Ne serait-ce que ça, des mots de passe suffisamment complexes, et aujourd'hui tous les services vous indiquent si votre mot de passe est assez complexe ou pas, des mots de passe un petit peu plus complexes que ce que vous aviez avant, ou utiliser des services comme LastPass ou Dashlane ou... One Password, et il y a des gens qui me disent oui, mais quand j'en parle de temps en temps sur Twitter, il y a des gens qui me disent oui, mais du coup, si tu utilises un service de gestion de mots de passe, eh bien, tu n'as plus qu'un seul endroit où ça peut poser un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils réussissent à rentrer dans ton LastPass, eh bien, ils ont tous tes mots de passe pour tout. C'est vrai, mais d'une part, tu peux protéger LastPass peut-être mieux que tu pourrais protéger d'autres mots de passe. Et d'autre part, ce qu'il est possible de faire, c'est de ne pas mettre dans LastPass les mots de passe les plus importants. Donc, je ne sais pas, pour votre Google, Facebook, Twitter, ces choses-là, les trucs que vous utilisez, Yahoo, les trucs que vous utilisez tout le temps. Mais par contre, vous en servir pour toutes les myriades d'autres services, les 80, 100, 200 autres services que vous utilisez, ou même 20. Parce que vous n'allez pas me dire que sur tous ces autres services, si vous n'utilisez pas un gestionnaire de mots de passe de ce type-là, vous n'allez pas me dire que vous utilisez un mot de passe différent par service. C'est pas possible. Un mot de passe différent, original, complexe et tout. Donc, dans tous les cas, la sécurité parfaite n'existe pas. Mais par contre, je pense qu'un gestionnaire de mots de passe de ce type-là est sans doute plus sûr que les autres solutions que vous aurez. À moins que vous soyez un génie qui a des mots de passe complexes partout, quoi. Mais bon. D'ailleurs, LastPass et Dashlane ont mis en place une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de changer des dizaines de mots de passe automatiquement d'un seul clic. Uh-huh. Donc,
tu m'as convaincu, je download Dashlane.
Voilà, exactement. Bon, moi, j'utilise LastPass personnellement, mais
c'est quoi le mieux?
En fait, LastPass a reçu l'approbation de Steve Gibson de Security Now, qui est un expert de la sécurité. Et il est tellement sécur qu'eux, effectivement, n'ont pas les informations. Et si jamais tu perds ton mot de passe LastPass, que tu peux bien sûr sécuriser avec une authentification double facteur, bah, ils ne peuvent pas te le récupérer, donc t'es foutu, quoi. Mais bon... Donc, je l'utilise parce qu'il a l'approbation de gens qui s'y connaissent. Voilà. Bon, bref, donc, voilà mon appel du cœur à nos auditeurs. Prenez votre sécurité au sérieux parce que c'est comme la ceinture de sécurité. On n'en a pas besoin jusqu'au jour où on en a besoin. Et le jour où on en a besoin, on est bien content de l'avoir mise.
Mais comme quoi les choses changent, parce que si on prend la ceinture de sécurité comme exemple, maintenant c'est presque criminel d'arriver dans une voiture sans sa ceinture de sécurité, enfin sans la mettre, alors qu'il y a peut-être 10 ans, on se disait, bon, ben voilà, c'est pas normal, mais on le fait.
Bah, c'est un peu pour ça que je prends cet exemple, hein, parce qu'aujourd'hui c'est accepté et bien connu, alors qu'il y a, bon, peut-être pas 10 ans, mais 15-20 ans, effectivement, les gens s'en foutaient, donc... Bon, peut-être que dans 15 ou 20 ans, la sécurité informatique sera aussi importante que la ceinture de sécurité aujourd'hui. Parlons un peu de le web 2014 qui a eu lieu la semaine dernière, comme on le disait. Moi, malheureusement, j'ai pas pu y aller cette année. Mais par contre, on a la chance d'avoir Jeff qui, comme toujours, a vécu la chose de l'intérieur. Et j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé cette année, justement, de l'intérieur. Je sais que tu étais hyper occupé comme toujours, mais est-ce que tu peux en quelques minutes nous expliquer puis nous faire vivre le web 2014 spécifiquement de l'intérieur pour toi ? Comment ça s'est passé ?
Avec grand plaisir. Le web, c'est tous les ans à Paris avec au mois de décembre avec deux éditions à Londres l'année dernière et l'année d'avant. Donc c'est 10 ans. Le web a commencé en 2004, donc ça a célébré cette année 10 ans d'existence. Et pour la première fois, Loïc Lemeur, Géraldine Lemeur sont les deux fondateurs et coproducteurs de la manifestation, qui rassemble à peu près 3 500-4 000 Pékin à Paris pour 3 jours. Et pour la première fois cette année, Loïc avait décidé de faire en sorte que plutôt qu'avoir un thème particulier qui a toujours été l'approche qu'il a prise sur la conférence. Il allait avoir en fait 8 personnes qui allaient prendre une partie de la conférence et allaient gérer ça en fonction de leur intérêt. Et donc j'étais un des 8 curateurs. J'avais pris, en gros, j'avais 1h30 de la conférence à moi et j'ai décidé de l'utiliser pour parler du futur de la médecine. Pourquoi cet intérêt personnel? Parce que c'est un secteur dans lequel nous avons décidé à Softech d'investir de façon assez importante. Je pense qu'il y a énormément de développement extrêmement intéressant dans le monde de la médecine et dans le cadre de essayons de parler de choses qui ont un impact, qui vont vraiment améliorer la condition des gens, ça me semble être la bonne chose. Et donc, j'ai fait venir des entrepreneurs. J'avais un co-chair pour la session qui est un docteur de la Silicon Valley, Daniel Kraft, qui est un spécialiste justement du sujet du futur de la médecine, qui a donné en quelque sorte en 20 minutes dans le cadre de notre session, il a donné en 20 minutes un aperçu de tous les éléments qui sont en train de changer, et il a fait 144 slides en 20 minutes. Et oui, c'est possible. Wow. Dans les faits, il était 2 minutes en retard. Bon, 22 minutes.
Et, est-ce que tu peux nous donner juste un ou deux éléments dont il a parlé, les plus frappants, les plus marquants peut-être?
Je pense que les deux choses qui m'ont marqué, enfin deux des gros thèmes, c'était un, le fait qu'on parle de la... digital health, donc la santé, l'e-santé ou la santé électronique, depuis maintenant la santé numérique depuis longtemps, mais je pense qu'on est enfin à la porte de les développements qui sont passés sur un an et demi, deux ans, qui en gros ont amené à la fois les technologies, que ce soit le cloud, le mobile, le social, les sensors,
les capteurs.
Ça se dit sensors, non? Non, les capteurs sont enfin maintenant disponibles dans le grand public et dans les hôpitaux et pour les assurances, pour développer des applications qui sont maintenant disponibles dans le grand public ou qui vont être disponibles. Et donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment pousser et booster le développement et la pénétration de ces applications. La deuxième chose, c'est le fait que, bon, en tout cas aux États-Unis, la loi Obamacare, ce qu'on appelle le Affordable Care Act, force les assurances et les hôpitaux à moderniser leur système de manière à ce que ce 10 millions, 15 millions de nouveaux abonnés, de nouveaux assurés ne génère pas trop de surchauffe en fait au niveau du système. Et le troisième, c'est le fait que enfin il y a énormément de développement dans la santé au niveau consommateur, c'est-à-dire que les gens prennent leur santé en charge, ils vont acheter un Fitbit, ils vont aller faire un peu plus d'exercice, et c'est quelque chose que l'on voit vraiment se développer, où les services qui permettent aux gens d'avoir du coaching sur leur santé sont en plein boom. Et donc, si on amène tout ensemble, c'est un peu le renouveau, en quelque sorte, de l'e-santé, et il y a énormément de développements qui sont vraiment intéressants. Après, au niveau un peu plus futuriste, tu vois la notion d'impression en 3D de bouts de tissu pour changer un œsophage, tout ce genre de choses. C'était de la fiction il n'y a pas très longtemps, et en fait c'est maintenant des quasi-réalités. Donc on a passé 1h30 là-dessus. Dans le cadre de la conférence, tu avais on parlait de la révolution de l'économie partagée, donc la sharing economy. On a parlé de drones, on a parlé de qu'est-ce qu'il y avait encore, j'ai pas tout suivi parce que j'ai passé beaucoup de temps avec les journalistes, parce que manifestement j'ai jaugé l'intérêt des gens sur l'e-santé au nombre de d'interviews de journalistes que j'ai fait à la suite de mon panel. Je pense que c'était une bonne édition. Ce qui était intéressant, c'est que mis à part Sir Tim Berners-Lee, qui était vraiment un des headliners, on n'avait pas de CEO de Twitter, de Facebook, de machin, de trucs. Et pour autant, c'était une conférence très très intéressante. Donc, c'était un bon boulot.
Ok, bah, merci beaucoup. Effectivement, ça avait l'air assez passionnant, en tout cas, ces histoires-là. C'est marrant qu'on entende tellement parler des drones. On en entend parler partout et de plein d'applications un peu surprenantes. Je sais que Niptech, enfin, en tout cas, il y a des gens que ça intéresse aussi chez vous. Mais une des choses qui m'a marqué, c'est une réflexion qu'a fait justement Tim Berners-Lee. Sir Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web, qui n'est pas l'ensemble d'Internet, hein, comme on dit souvent, mais il a dit, il parlait du droit à l'oubli dans une interview avec Loïc, justement, et il disait, que pensez-vous du droit à l'oubli? Et ce qu'a répondu Sir Berners-Lee était hyper intéressant. Il a pas dit le droit à l'oubli. C'est horrible et il faut jamais l'utiliser. C'est terrible pour la liberté d'information et de machin. Ce qu'il a dit, c'est on devrait avoir droit au droit à l'oubli dans le cas d'informations qui sont fausses. C'est-à-dire que s'il y a des informations fausses qui sont sorties quelque part sur Internet, on devrait pouvoir dire à Google. Si, par exemple, c'est l'exemple qu'il prenait avec Loïc, il disait, si on a un article qui a été écrit qui dit « Mike, ce Suisse scélérat a eu des problèmes de remboursement de ses dettes depuis des années, enfin, entre les années 1995 et 2005, il n'a payé aucune dette. » Et bien sûr, cet article pourrait se diffuser énormément parce que c'est Internet et qu'il peut être copié. Il n'est jamais perdu, en fait. Il ne disparaît jamais. Dans ce cas-là, si ce n'est pas vrai, effectivement, le fait de demander à Google de supprimer le lien pourrait se comprendre. Par contre, là où il a... bon, il rejoint, je pense, l'avis de beaucoup d'entre nous, c'est qu'il dit que, d'une manière générale, le droit à l'oubli, entre guillemets, pour des choses qui existent, qui ont vraiment existé, est un problème très dangereux pour la liberté de parole et, bien sûr, pour l'histoire, avec un grand H aussi. Mais j'ai trouvé très intéressant cette distinction qu'il a fait également. Donc, je voulais la...
Moi, je trouve intéressant, mais en même temps, je me dis, souvent, c'est jamais noir ou blanc. C'est surtout des points de vue. On connaît la presse et on sait que quand on connaît très bien un sujet, on voit la presse en parler, on voit qu'elle prend souvent parti, et le parti, il est ce qu'il est. Il est aussi bon que le journaliste a fait sa recherche. Donc, pour moi, oui, mais c'est très difficile de dire noir ou blanc, parce que c'est des points de vue qui sont pris, et de dire que c'est totalement faux, c'est jamais à 100% faux, mais il peut avoir seulement en fait, 60% de la vérité.
C'est pour ça qu'il faut demander à un tribunal ce qu'il en pense. Et si le tribunal a dit non, il y a eu les allégations que vous faites sont inexactes, cher monsieur journaliste, à ce moment, on a déterminé ce qui est dit dans cet article n'est pas vrai. Et donc, on peut demander à Google de le faire disparaître. Tu vois, il y a des moyens de décider communément en société. Enfin bref, ça serait un autre débat. Donc, pour conclure sur le... Oui, pardon.
Moi, j'avais une petite question sur le web. Parce que je voyais, c'était la 11e édition. Donc, je me demandais à Jeff si les gens qui vont à le web n'ont pas un peu changé. Parce que je me dis, 10 ans pour une conférence tech, c'est énorme. Et je voulais savoir aussi s'il avait donc comment étaient les personnes là-bas à le web, est-ce qu'ils ont changé, vieilli, est-ce que c'est toujours des geeks, et deux, est-ce que tu as entendu, parce que tu parles de santé connectée, des choses sur Apple Health, parce que perso j'ai l'iPhone 6 Plus et je n'utilise jamais l'application, donc je me demande si tu as entendu des trucs incroyables sur lesquels je pourrais l'utiliser.
Alors, pour répondre à ta question, la dernière question en premier, non, pas trop. C'est-à-dire que.
Pétard mouillé.
C'est comme tout intégrateur, Apple.
Un moment.
Ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont mis ça en place. Ils espèrent que toutes les applications, que ce soit les trackers, les bascules, les machins, se mettent à contribuer, donc leurs données à l'intérieur. Et objectivement, c'est pas encore le cas. Et c'est toujours le problème des gens qui essaient de monter une infrastructure juste en étant un agrégateur. C'est un peu la volonté des tierces parties que de l'utiliser. Donc il n'y a pas eu encore une énorme adoption. Et une fois qu'on a l'iWatch qui sort, à ce moment-là, Apple deviendra non seulement un agrégateur, mais aussi un contributeur. Et c'est peut-être à ce moment-là que ça commencera à décoller. Donc il y avait très peu de. Et en fait, c'était la volonté, en tout cas de ma session, c'était pas de faire trop de trucs, tu vois, court terme, annonce de produits. C'était plus essayons de se poser dans une philosophie. Voilà la vision à 3 à 10 ans de ce qui se passe au niveau futur de la médecine. Et après, prenons. Quatre différentes sociétés qui sont complètement différentes, qui vont vous parler de services qui vont vraiment potentiellement changer la façon dont le consommateur va dans un cas Omada Health, c'est comment tu vas recevoir du coaching qui te permet en fait de prendre des meilleures décisions au niveau personnel, tu vois, commencer à marcher un peu plus, commencer à manger un peu mieux, faire attention à ton poids, etc., etc., mais dans un environnement positif, c'est-à-dire que ce soit pas du tout négatif, où il y ait vraiment du soutien, du support et de la motivation. Une autre, c'était une aide pour les femmes à mieux comprendre leur cycle pour essayer de tomber enceinte. Avec une vision, une vision éventuelle de remplacement complet de la pilule, de manière à ce que tu n'aies pas besoin de prendre des trucs chimiques quand on n'en a pas besoin. Donc, c'était vraiment des choses qui avaient plus des impacts à 2-3 ans. Et on n'a pas fait des choses du genre la dernière version de X, Y ou Z. Mm-hmm. Donc, pour moi, l'approche, c'était essayer de faire découvrir à notre audience, à notre public, des choses qu'ils n'avaient pas forcément entendu parler, plutôt que la dernière version de Fitbit ou de Withings, quoi.
Mm-hmm. OK. Et la première question, peut-être, rapidement, sur la manière dont a évolué l'audience, le public de le web. Je sais qu'il y a 10 ans, c'était 100 personnes dans à l'Assemblée, si je ne m'abuse. Donc, ça a dû pas mal changer, mais...
On a pris 10 ans déjà. Hein. c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était une bande de blogueurs qui faisaient la queue devant la porte du Sénat, où on n'avait pas du tout anticipé qu'il fallait passer au travers des portails de sécurité, et donc ça avait pris une heure à remplir la salle. Et à l'époque, c'était essentiellement de la discussion autour du blogging, qu'est-ce que ça veut dire, les blogs, les machins, les trucs, comment faire de l'argent sur les blogs.
Les blogs, justement.
Ça s'appelait les blogs. Et en fait, le tout premier événement auquel je n'étais pas, c'était, je crois, la coulisse des blogs, qui était un espèce de cocktail qui avait eu lieu quelques mois avant que Loïc et Géraldine avaient mis en place. Et en fait, pendant 2 ans, ça a été les blogs. Et après, c'est devenu très clair qu'il fallait élargir les sujets de la conférence. Donc, c'est passé des blogs au web après une paire d'années. Donc, il y avait genre 120 ou 120 personnes, je crois, pour le premier. Il y en avait 450 pour la deuxième édition. Et après, quand on est passé au web, les chiffres ont commencé à augmenter. Donc,
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On est passé une centaine à 450 à 800, 900, et après on est passé dans les plusieurs milliers de personnes. Et effectivement, au fur et à mesure où on a élargi l'audience, on a vu beaucoup plus de sociétés, que ce soit des startups ou que ce soit des grandes boîtes. C'est devenu beaucoup plus international. Il y a eu énormément de gens de la Silicon Valley qui sont venus. Il y a typiquement quelques centaines de gens qui viennent de la vallée chaque année pour le web. Et au fur et à mesure, je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé que ça avait un peu perdu ce qu'il y avait au début du web, c'était le côté un peu geek, un peu start-up, bootstrap, machin. Ouais.
Et c'est devenu, devenu
un peu plus corporate, mais aussi beaucoup plus large et plus intéressant parce que maintenant, on a parlé de ce qui s'est passé sur la scène principale, hein, sur Pullman, mais à côté de ça, tu avais deux scènes supplémentaires où il y avait tout un tas d'autres sessions, que ce soit sur des sujets de social media, que ce soit des trucs un peu plus corporate, effectivement. Et puis, il y avait aussi toute un ensemble de sessions verticales sur les différents pays d'Europe qui l'utilisaient pour présenter leur plateforme sur l'innovation. Donc, les Allemands, tu avais les Anglais, tu avais les Français. Et donc, c'était assez intéressant puisque ça permettait à quelqu'un de vraiment mix it up, comme on dit, donc mélanger les différents sujets et de vraiment trouver dans le catalogue de contenu que tu peux trouver au web, des choses qui étaient intéressantes. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, comme d'habitude, en salle de presse et plutôt dans la partie back-office, et j'ai pu apprécier, en fait, le travail monstrueux que ça représente de monter une conférence comme ça, parce que ne serait-ce que pour qu'une séance, une session d'une heure et demie comme la mienne se passe bien, ça demande énormément de planification, ça paraît tout con, mais il faut savoir qui rentre, qui sort, qui prend le micro, qui a quel micro, qui va s'asseoir où, etc. Et on a travaillé pendant 3 heures à planifier le matin de notre session, tous ces détails-là pour que ça tourne véritablement de façon, façon très professionnelle.
Ayant moi-même produit des événements un petit peu plus petits, mais de ce type-là, je sais qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur du travail que ça demande. Donc, merci beaucoup, Jeff, pour ce compte-rendu.
Avec plaisir.
Avant de passer aux news et rumeurs, on va parler rapidement de Windows, Windows 10 et la version Consumer Preview qui a leaké sur Internet. Et donc, on en a appris un petit peu plus sur le prochain système d'exploitation de Microsoft que moi j'attends avec un petit peu d'impatience. Je pense que Jeff, ça ne va pas lui parler tellement.
j'ai loupé Windows 9
C'était la blague il y a 2 mois, Jeff. Là, ça devient du troll.
Bon, ok, excuse-moi.
Mike, je ne sais plus si tu utilises Windows ou pas, toi.
J'utilise Windows pour le travail et j'ai Windows, une version un peu modifiée à côté, parce que j'ai dû quand même avoir la barre, hein, parce que sans la barre, je ne m'en sortais pas. Ouais. Mais oui, je suis toujours un utilisateur de Windows.
D'accord. Bon, effectivement, le menu revient avec Windows 10 qui devrait être disponible à l'automne prochain. Mais en attendant, on a vu quelques informations qui intéresseront les geeks parmi nous, dont je suis. On va avoir Cortana, bien sûr, on le savait, dans Windows 10, c'est-à-dire l'assistante personnelle comparable à Siri, avec cette conversation pour lui faire des demandes. Et il y a dans la barre d'icônes, la taskbar, un champ de recherche au texte qui permet aussi de l'utiliser avec l'appel Hey Cortana, comme Hey Siri quand il est branché ou comme OK Google. Donc on va pouvoir faire des requêtes de ce type-là à notre ordinateur. Elle nous écoutera tout le temps et on pourra lui parler. J'imagine que ça arrivera sur macOS avec la prochaine version aussi, avec Siri qui arrivera sur macOS, mais on verra ça. Il y a une synchronisation complète des informations de recherche en particulier, mais en général aussi avec Windows Phone, donc l'harmonisation de l'écosystème là, qui n'est pas très surprenante, mais qui est bienvenue. Une application de contact de support technique, visiblement, qui va être intégrée, un petit peu comme l'application sur les appareils d'Amazon. Vous savez, c'est cette application qui vous permet d'appeler le support technique sur un Kindle Fire ou sur le téléphone Kindle, simplement en appuyant sur un bouton et vous avez quelqu'un en vidéo à l'autre bout de l'Internet. Eh bien là, il y aurait une application similaire. Je souhaite bon courage aux gens qui vont travailler dans ce call center-là parce que ça ne va pas être facile. Plein d'applications qui ont été changées, améliorées, modifiées. et aussi une application Xbox qui est assez développée. Alors certains ont dit, est-ce que ça veut dire qu'on pourra jouer au jeu Xbox One sur Windows ? Moi franchement, j'y crois pas trop. Mais en janvier, on va avoir une conférence qui va présenter cette version et on en saura un petit peu plus. D'une manière générale, j'ai trouvé cette amélioration de Windows 8 vraiment satisfaisante. Moi, j'aimais beaucoup Windows 8 en version desktop. Uh-huh. J'en ai parlé suffisamment. Je trouve qu'il est vraiment... c'est une belle amélioration de Windows 7 qui était déjà bien. Il y avait des problèmes d'interface avec l'interface Touch qui était un peu trop présente dans la version desktop. Mais là, justement, ça corrige tous ces soucis. Et je trouve que Windows 10 pourrait vraiment être une version gagnante pour Microsoft. On verra ce que ça donnera quand il sortira, mais moi, j'y crois pas mal. En même temps, je trouvais que Windows 8 était bien aussi et ça n'a pas été hyper un gros succès pour Microsoft. Donc, une autre chose...
qui m'a intéressé quand j'ai regardé la vidéo, c'est toujours on parle de Cortana, donc je me suis dit waouh, la nouvelle révolution Cortana, parce que mon Siri, alors c'est peut-être moi hein, qui parle mal, mais mon Siri ne marche pas, et je voyais un exemple de Cortana et de l'utilisation, il disait what's the weather in New York, et
Cortana, c'est ton accent suisse ou bien
oui, ça doit être mon accent suisse hein. et ça marchait pas,
donc, non mais attends, alors Il faut préciser que c'est une pré-version leakée, une version qui n'est même pas sortie. Ils sont encore en train de travailler dessus. Donc, ils précisent dans la vidéo, du début à la fin, c'est normal qu'il y ait des choses qui ne marchent pas. Oui,
mais
c'est
à chaque fois ça, on nous fait rêver que ça va.
Mais ne juge pas là-dessus, on aura...
Il y avait Dragon Dictate en 1990 qui existait et toujours, ils n'arrivent toujours pas à nous faire des solutions.
Peut-être pas en 1990 non plus.
Non ?
Mais non, peut-être pas en 90.
95.
Je rappelle que Windows 95, c'était en 95. Donc, oui, bon, moi, je pense que ça... Je ne sais pas si ça va arriver à tout reconnaître, mais déjà, pour moi, Siri ne marche pas trop mal. Donc, c'est peut-être ton accent, effectivement.
Et c'est peut-être mon accent, ouais.
Un autre truc intéressant pour Microsoft, la Xbox et le Windows Store acceptent maintenant les paiements en Bitcoin. C'est marrant parce que les bitcoins, donc cette cryptocurrency qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois ou l'année dernière, on n'en entend plus trop parler, mais petit à petit, elle est en train d'être acceptée dans de plus en plus d'endroits et elle est en train de se légitimiser au-delà des scandales un petit peu bruyants qu'on a eu les mois précédents et l'année dernière. Là, ça commence à devenir vraiment quelque chose de légitime petit à petit, où ça pourrait devenir quelque chose de légitime. Donc, enfin, Windows Store qui accepte les bitcoins, c'est quand même gros. Et enfin, pour parler un peu de Windows Phone, Huawei, un gros constructeur de téléphones, a déclaré « De toute façon, on va arrêter Windows Phone parce que personne ne gagne d'argent avec Windows Phone. Pas Microsoft, pas les constructeurs, pas les développeurs, personne. » Donc, c'était un petit coup à Microsoft. Je crains malheureusement ça fait mal ça. Je crains qu'il ait raison. Ça ne veut pas dire qu'il aura toujours raison. Et avec l'intégration avec Windows 10, ça risque de changer. Mais pour le moment, malheureusement, c'est pas hyper rose pour Windows Phone. Bon, on va passer à nos news et rumeurs. Mais avant ça, tu dis, Jeff, si tu dois filer. Hein,
j'ai encore 8 minutes.
D'accord. Et ben donc je vais rapidement remercier une fois de plus et comme toujours les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon, qui choisissent de donner un petit peu d'argent, pas grand-chose, hein, $1. Si vous pouvez donner $1 par épisode, c'est très bien. Et si vous pouvez donner plus, c'est encore mieux. Mais il y a 700 personnes qui font ça. Wow. Et je vais en remercier encore quelques-uns aujourd'hui. Je vais donc remercier Jérôme Stahl, Benjamin, Clive Coxter, Romain Silvasi, Laurent Trabado, Braise 29, Loïc Goyet, Germain, Walter Christophe et Charlie. Ils ont tous décidé que l'émission était, peut-être une heure et demie sympathique qu'ils écoutent depuis des années. Et ils se sont dit, ça vaut bien la moitié du prix d'un café. Donc, je vais aller sur patreon.com/rdvtech et donner un petit peu de sous. C'est d'autant plus apprécié que, comme vous le savez maintenant, j'en vis. Donc, c'est vous qui me payez mon salaire, c'est vous mes patrons. Et si vous appréciez l'émission, eh bien, moi, j'apprécie que vous y donniez un tout petit peu de sous. Et là, je vais faire mon même speech que pour les histoires de sécurité informatique. C'est à toi, toi qui écoutes cette émission maintenant, en ce moment, toi aussi, tu peux donner de l'argent. Non, je plaisante. Que vous puissiez donner ou pas, dans tous les cas, j'apprécie énormément le fait que vous écoutiez l'émission et je remercie encore une fois ceux qui choisissent de donner quelques sous. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'un certain Hatside sur Twitter a commencé à soutenir le rendez-vous tech. Oui.
J'admire tellement. Franchement, c'est bien de voir que ça fonctionne. Surtout, là, les podcasts commencent à revenir à la mode. Là, je vois dans la presse, non seulement en Europe, mais aux États-Unis, qui reparlent des podcasts et tout. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui peut en vivre. Donc, et c'était la moindre des choses. Je me suis senti coupable de l'avoir pas fait avant. Alors voilà, là, c'est fait. Et je dois que féliciter. Donc, je trouve ça vraiment génial. Et de voir que 700 personnes participent, ça montre qu'on n'a pas besoin que tout le monde. Je sais pas combien de download t'as par émission.
Ah, mais beaucoup plus que ça, mais, mais bon.
J'imagine. Mais on n'a pas besoin de que tout le monde participe, mais si une partie donne, ben ça va. Je trouve ça bien.
Exactement. Exactement, et je suis hyper reconnaissant. Donc, je vous remercie encore une fois. Une petite parenthèse en plus pour dire que le prochain épisode, ça sera le troisième épisode du mois. Donc, ne vous inquiétez pas si vous donnez que pour deux épisodes, si vous avez fixé la limite, eh ben, vous ne serez pas débité pour le troisième, évidemment. Mais ça sera un épisode qui arrivera entre Noël et le Nouvel An. Donc, ça sera un épisode bonus, un petit peu spécial, qu'on a déjà enregistré, en fait, qui sera un épisode dédié au référencement et au SEO. Un sujet extrêmement important aussi, et j'espère qu'on réussira à vous expliquer à quel point et pourquoi c'est important dans cet épisode. Il sera disponible dans la semaine entre Noël et le Nouvel An. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez cet épisode aussi, et on reviendra avec l'actu pour l'épisode qui suivra, qui sera début 2015 évidemment. Nos news et rumeurs avec un sujet dont je pense qu'il va provoquer des réactions violentes chez mes co-animateurs. Vous avez peut-être entendu le fait que, comme d'autres pays européens, l'Espagne avait décidé d'interdire, ou plutôt de forcer, les éditeurs de journaux sur Internet de demander, d'exiger de l'argent à Google quand ils utilisaient leurs articles dans Google News, donc des extraits de leurs articles dans Google News. C'était une loi. C'est une loi d'ailleurs, ils sont allés encore plus loin que tous les autres, ils ont mis en place la loi qui exige que tous les éditeurs de sites web utilisés dans Google News exigent de l'argent de Google. Donc on n'avait pas l'option de dire « Ah non, nous ça va, on veut bien être dans Google News sans que Google n'ait à payer ». Suite à ça, Google a décidé « Bon, bah écoutez les gars, on est désolé, on n'a pas de pub sur le site Google News, donc on va être obligé de fermer parce que ce n'est pas gérable pour nous. » Voilà, Google News, c'est un site qu'on fait comme ça, bien sûr, pour que les gens utilisent les services Google et bien sûr pour disséminer l'information. Mais si vous voulez absolument nous forcer à payer pour chaque extrait qu'on utilise et qui renvoie du trafic vers le site, bah désolé, on va fermer Google News en espagnol. En Espagne et dans tous les autres pays. C'est-à-dire que le Google News Espagne ne serait plus disponible nulle part. Évidemment, les gens n'étaient pas contents, en particulier les expatriés qui se disaient « Bon, bah, à la limite, pas disponible en Espagne et encore, mais ça veut dire qu'on en a plus, on n'y a plus droit nulle part. » Et personne, tout le monde trouvait cette décision exagérée, ridicule, tout ce que vous voulez. Et visiblement, les gens qui trouvaient ça le plus ridicule, ou en tout cas qui se sont rendus compte à quel point ils se sont pris les pieds dans le tapis après une semaine de raillerie du monde entier, eh ben, c'est l'association des éditeurs de journaux espagnols qui ont maintenant demandé, alors attention, tenez-vous bien, qui ont demandé au gouvernement de les aider à arrêter la fermeture de Google News qui a été provoquée par la loi qui exigeait de Google News qu'il paye les journaux. Donc ça veut dire que encore plus loin, ils vont encore plus loin que tous les éditeurs européens qui ont eux aussi été assez loin dans leurs demandes. Ils demandent au gouvernement donc de forcer Google News à rester ouvert en les forçant à payer les extraits qu'ils utilisent. Enfin, mais on marche sur la tête quand je vous dis qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement d'Internet, là, je ne pense pas qu'il existe un exemple plus frappant, à part peut-être celui qui va arriver juste après. Enfin, moi, je suis sans voix. Ça vous provoque peut-être une réaction, vous, je ne sais pas, mais...
Moi, je me dis vraiment qu'il y a vraiment un vieux et un nouveau média. Hein. Il y a vraiment des journalistes qui comprennent, je pense pas ce que ça apporte, mais en même temps, ils voient que si Google n'est pas là, ils vont quand même perdre du trafic. Je pense que ça.
Oui, entre parenthèses, je l'ai pas précisé, mais l'association en question se dit. C'est parce que le trafic, entre autres, mais principalement, le trafic va chuter parce que Google News amène un trafic énorme au site qu'il référence. Donc oui, le trafic, c'est pas juste qu'ils veulent être payés pour les extraits qui sont utilisés. C'est aussi et surtout pour le trafic que leur amène Google News.
Moi quand je vois ça, je me dis il y a vraiment un côté survie de ces newspapers, de ces éditions qui sont vraiment à la survie. On voit partout en Europe, ça marche pas, ça fonctionne pas. Aux États-Unis, on voit 2-3 belles réussites, mais on en voit peu, je trouve. Et je me dis vraiment c'est un modèle qui va sûrement mourir d'ici à 10 ans et il y aura d'autres choses qui arriveront. Ce que j'arrive pas à comprendre, au lieu d'essayer de trouver des solutions, c'est d'aller direction du web, ils freinent et ils essayent de trouver un peu comme ce qu'on voit pour Uber, je trouve. C'est un peu la même situation.
On pourra en parler d'Uber, oui, effectivement. Jeff, j'imagine que vous regardez ça et que vous êtes atterré depuis les États-Unis ou depuis la Silicon Valley.
Bah.
et en même temps, je dis ça, on est atterré ici aussi, donc.
Ouais, non, je veux dire, c'est effectivement, c'est la transition de l'ancien média vers le nouveau média et comprendre les nouvelles règles. Et en fait, je trouve que c'était stupide qu'ils demandent à Google de payer et puis ils se sont rendus compte que quand il n'y a plus de trafic, il n'y a plus de revenus. Et ben voilà. Ouais. Voilà, on vous l'avait dit, puis vous l'avez expérimenté vous-même, donc la prochaine fois, vous réfléchirez à deux fois.
Mais c'est marrant parce que moi, je suis vraiment le genre de... Enfin, vous le savez, hein, dans cette émission, j'essaye toujours de voir les deux côtés des histoires et les deux arguments, le revers de la médaille, de me faire l'avocat du diable, etc. Là, je peux pas. Enfin, il y a... C'est compliqué, je comprends pas comment ça marche parce que je viens d'un ancien média, etc. À vrai dire, même pour un truc comme Uber, il y a différents arguments qu'on peut expliquer. Même dans les batailles qu'ont livrées les éditeurs belges, allemands, français, à la limite, on pouvait avoir une argumentation contraire et opposée. Pourquoi pas ? Mais là, vraiment, enfin, il y a un niveau d'incompréhension qui est tellement élevé qu'à un moment, ça atteint la bêtise simple. Je veux dire, il y a juste... Enfin bref, je trouve que c'est pas défendable à ce niveau-là, mais bon. Un autre exemple de gens qui ne comprennent pas le fonctionnement d'Internet, c'est le blocage administratif, entre guillemets, de Pirate Bay. C'est-à-dire que le Pirate Bay est un site de partage de torrents en grande partie pour des contenus illégaux, piratés, qui a été donc ordonné, le blocage de ce site a été ordonné par le tribunal de grande instance de Paris, à la demande des ayants droit, évidemment, hein, c'est pas très surprenant. Et donc, au niveau des FAI, des fournisseurs d'accès à Internet, ils auraient une liste de sites auxquels personne n'aurait accès. Et donc, ce blocage devait être mis en place dans les jours qui viennent, là. Sauf que, d'une part, il aurait fallu bloquer tous les miroirs qui seraient apparus à droite à gauche et c'était hyper compliqué à mettre en place, mais on n'a même pas eu à arriver jusque-là puisque quelques jours après cette décision du tribunal de grande instance, la police suédoise a fait un raid dans les locaux qui hébergent les serveurs de The Pirate Bay et le site est tombé parce que les serveurs avaient été saisis par la police. On parle bien d'avant que la décision soit mise en application pratique en France. Donc, The Pirate Bay est hors service, non pas parce que les FAI français l'avaient bloqué, mais parce que les serveurs n'existaient plus. Entre-temps, différents miroirs de The Pirate Bay sont arrivés un petit peu partout sur la toile. Et l'un d'entre eux, hébergé par IsoHunt, qui est un site de partage de fichiers très ancien qui existe donc depuis longtemps, qui est assez connu, l'un d'entre eux est un site qui est devenu très actif et qui, en effet, a remplacé The Pirate Bay. Ce qui veut dire que le site dont on a ordonné le blocage en France n'existe plus et ces miroirs sont déjà... actif. Et donc, le problème des miroirs s'est présenté avant même que la question des, du blocage ne se pose. Et évidemment, le problème va continuer à arriver. Donc, encore une fois, c'est un exemple qui est évidemment moins frappant que pour l'histoire des journaux espagnols, mais qui est assez frappant tout de même du fait que on se bat, enfin, certaines personnes se battent avec des armes dont elles ne comprennent pas qu'elles sont assez peu efficaces dans le combat. Donc, bon, ça m'attriste un peu.
Bon, je ne vais pas dire que j'étais un utilisateur de Pirate Bay, mais quand j'y allais, c'était vraiment pour downloader du contenu, bien sûr, tout légal. À fait légal, bien
oui,
sûr,
tout
et tout, du contenu open source que je pouvais, bien sûr, trouver ailleurs. Mais une chose...
En Suisse, c'est légal, hein, entre parenthèses.
Mais je crois que ce qui n'est pas légal, c'est de mettre à disposition. Ce n'est pas télécharger
possible.
Qui est illégal, mais c'est de mettre à disposition. Alors voilà, il ne faut pas partager, il faut juste downloader. Et le truc, c'est que moi, ce que je me dis, c'est que Pirate Bay, c'était quand même très facile. Donc, ça donnait accès aux gens de manière ultra facile à la totalité des films. Et c'est vrai qu'en ayant coupé ces serveurs-là directement en Suède, ça leur pendait au nez, ça rend les choses plus difficiles pour la majorité des gens.
Alors, moi, je dirais qu'il faudra quelques semaines à deux mois pour que de nouveau... de nouveaux sites voient le jour et voilà, ça ne change rien.
Je mettais bien le parallèle, je pense, c'est un peu comme la fin de Napster. On a vu Napster s'est écroulé, mais il y en a 10 ou 20 autres qui sont arrivés et c'est un peu la même chose. Pirate Bay s'écroule et je me demande s'ils vont revenir en ligne cette fois-ci,
peut-être
mais
pas,
il y en a 20 qui vont arriver.
Peut-être pas, mais ce n'était pas à cause du blocage en France. Hein, enfin bref. Jeff, une réaction, je pense que tu dois partir, là il commence à se faire tard.
Enfin que j'ai non, plus que ça.
Pirate Bay, tu t'en fous. Vous
voilà.
Avez les ouais, d'accord.
voilà.
Ok.
Et donc je vais vous dire, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes, happy holidays oui. Comme on dit. Et puis on se retrouve au mois de janvier pour un rendez-vous tech qui devrait être le numéro 150 ou on
exactement.
En a déjà passé 150.
Non, ça
et
sera
voilà,
150
donc,
et ça sera le rendez-vous. CES sans doute.
Rendez-vous auquel je n'irai pas. C'est au tour de mon partenaire Charles Hudson d'y aller. Donc, je vais éviter le CES cette année.
Ouf, t'as bien de la chance.
Et puis, voilà. Donc,
okay.
À bientôt. Et
à
encore
bientôt.
Merci à tous.
Joyeux Noël, bonne fête. Ciao, Jeff. Et donc, on continue avec... je vais le dire, mais ça me déprime. Angela Merkel s'est exprimée contre la neutralité du net. Voilà, je vais juste dire ça comme ça. Enfin, la neutralité du net qu'on pensait acquise en Europe il y a à peine quelques mois est en train d'être attaquée de tous les côtés. Mm-hmm. J'ai suffisamment expliqué pourquoi la neutralité du net est importante. J'y reviendrai peut-être sans doute un jour l'année prochaine, mais ça me déprime, quoi. Et pendant ce temps, Barack Obama apprend à coder. Bon, c'est un petit peu pour les caméras, mais il a été dans une école et il a pris un cours de code. Ça a duré une heure. Il a affiché, je ne sais plus, un truc genre Hello World. Et puis il a fait un cercle à l'écran ou un truc comme ça. Mais franchement, on peut plaisanter. On peut dire que c'est juste pour les caméras, que c'est machin.
JavaScript.
Ouais. Mais franchement, c'est déjà ça, quoi. C'est pas mal.
Bon, c'est un des premiers présidents qu'on a vu avec un BlackBerry hein, qui semblait savoir taper sur son clavier. Donc, ça nous a déjà étonné, un président du 21e siècle. je trouve ça bien. On sait que le futur, ça, c'est les développeurs. On sait que les jobs de tout ce qui est dans les usines commencent à partir tout en Chine ou ailleurs et que les États-Unis doivent vraiment trouver une solution pour trouver du travail. Donc, je pense que c'est une bonne initiative. Je trouve ça bien.
Et puis, le fait de montrer un président qui apprend, pour le geste, pour l'image, pour la photo, à coder pendant une heure... Ça émet un signal, quoi. Ça donne un signal. Imaginez Monsieur Hollande qui irait à l'école juste pour une heure pour coder deux, trois trucs en disant « Oh, mais c'est très intéressant, machin !» Eh bien, ça te montre quelque chose. Ça montre aux autres hommes politiques, ça montre aux chefs de grandes entreprises, ça montre à la France, enfin au pays, ça montre quelque chose. C'est un message, c'est important, je trouve. Donc,
bon, si lui ne savait pas utiliser Twitter, François Hollande, en tout cas son ex-compagne, oui.
Ah, peut-être qu'elle a ses représentants de relations presse qui s'en occupent. Hein. On ne sait jamais. Les éditeurs français sont en train de partir en guerre, ou sont prêts à partir en guerre, comme le dit l'informaticien, contre le bloqueur de pub Adblock. Alors, j'avais déjà parlé d'Adblock, moi je ne suis vraiment pas fan, parce que je trouve ça assez malhonnête comme démarche. Le fait de se dire « je vais aller sur un site », j'aime pas les pubs qu'il y a sur ce site, donc je vais enlever les pubs, mais je vais quand même aller sur le site. Pour moi, bah, on parlait de Pirate Bay tout à l'heure, j'apparente un petit peu ça à du piratage de site, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que cette vision est un petit peu extrême, mais on consomme le contenu sans accepter la contrepartie tacite qui est le fait qu'ils vont se rémunérer avec de la pub. Donc moi, je ne suis pas très fan de cet adblock, d'autant plus qu'on a entendu des chiffres assez hallucinants selon lesquels, selon les sites, entre 20 et 40% des sites étaient, enfin des visiteurs de sites utilisaient des adblockers. Donc 20 et 40%, c'est énorme. Ça veut dire que c'est une part énorme de, des visiteurs qui n'acceptent pas de voir la pub et surtout qui consomment du contenu sans que les créateurs du contenu soient payés. Moi, je trouve, je sais pas, ça me gêne.
Moi, je suis pas d'accord avec toi là, parce que je pense la chose suivante. Je pense que on est rentré dans l'âge où la pub doit intéresser le public. C'est comme à la télé. Avant, tu étais obligé de regarder la pub parce que tu voulais écouter l'émission. Et maintenant que tu peux l'enregistrer, tu fais forward, forward, forward sur la pub et tu l'écoutes plus. Donc, c'est un peu partout la même chose. Les gens qui font de la publicité, les créateurs de pub doivent trouver une manière de capter l'attention du lecteur. Et c'est pas en mettant trois pubs, trois banners de chaque côté qui vont le faire. Donc, moi, je dis tant pis pour eux s'ils savent pas trouver des manière de choper mon intérêt. En tout cas, moi, j'utilise Adblock.
Ouais. Bah, écoute, moi, je trouve pas ça très honnête. Mais et puis, il faut pas oublier que beaucoup de sites, on en parlait à chaque fois que je parle d'Adblock, je dis la même chose. Mais il y a énormément de sites qui ont essayé de trouver des solutions alternatives, comme l'idée de faire payer une toute petite somme à leurs lecteurs, et ça n'a pas vraiment marché.
Mais maintenant, donc, Google s'est mis dedans. Donc normalement, ça devrait fonctionner.
Ah,
alors,
d'accord.
Voilà. Moi, je pense que aussi, il y avait pas une solution facilitée. Tout le monde est prêt à donner 20 centimes, 15 centimes par chose qu'il lit, et je suis sûr que ça va fonctionner. Mais on peut pas blâmer qu'il y ait des gens. Franchement, la publicité, c'est horrible ce qu'on voit actuellement sur le
net. Bah oui, mais c'est pas, pour moi, c'est pas à toi de décider. Et, si, tu peux décider, ta décision, c'est de ne pas visiter les sites qui utilisent des publicités qui ne te plaisent pas. Tu peux dire, bah non, écoutez, moi, vous utilisez un business model qui ne me convient pas, donc je ne vais pas aller chez vous. Mais bon. Et entre parenthèses, Adblock, il se rémunère en acceptant de faire passer la publicité de certains des annonceurs si elles correspondent, entre guillemets, aux critères qu'ils ont déclarés et qui étaient acceptables. Donc, tu vois qu'ils sont pas hyper clairs, eux, non plus. Ils acceptent, tu vois, ils bloquent toutes les pubs de tout le monde. Et puis après, ils viennent te voir et disent « Eh, si tu veux faire passer de la pub, on peut peut-être s'arranger. Si tu me fais passer un petit peu. Enfin, c'est une prise en otage des annonceurs. Enfin, bref, bon. Et pourtant, je ne suis pas fan de pub. Hein. Et Dieu sait que je suis reconnaissant d'avoir des patriotes qui me permettent de vivre directement en me payant pour
model.
Mon travail.
Voilà,
oui, non, mais tu vois,
model.
Nous,
on te paye
on
parce
est
qu'on
innovant.
Aime.
Je suis d'accord. Mais
ben voilà, enfin, bon. Il faut. Moi, je dis ce vieux business model du clic, de ces publicités qui n'ont jamais marché. On voit, ça n'a jamais fonctionné. C'est vraiment le moment qui s'arrête. Et aussi, ça pousse les annonceurs à faire du bon contenu. À pas seulement mettre un banner avec cliquer là, mais à faire du bon contenu intelligent.
Je pense que tu as des lunettes très roses sur les yeux, là, mais bon. Lending Club, une société française, une société qui a été lancée par un Français qui a fait son entrée en bourse. Si je ne m'abuse, c'était au Nasdaq, non ?
Oui.
Ils ont sonné la cloche du Nasdaq et ils ont fait... combien ils ont fait ? Presque $1 milliard à leur entrée en bourse. Donc voilà, il y a aussi des Français qui arrivent. Bon, moi, j'aurais... pas, enfin bon, bref, si, voilà, soyons positifs. Moi, je pense que c'est pas un exemple qui fait tout, mais ça arrive quand même, donc c'est bien. Voilà.
Ben, on en a vu pas mal, là. Lending Club, New Relic, on en a vu pas mal arriver en bourse, c'est temps.
Voilà, donc on peut réussir aussi. Quand il y a des bonnes nouvelles, on en parle. YouTube et blogueurs, comment sont-ils rémunérés secrètement ? Titre malicieusement laruche.com, le nouveau site qui a remplacé PC World et Macworld, sur laruche.com. C'est une enquête, un article intéressant sur la manière dont les blogueurs et les YouTubeurs sont rémunérés, parce qu'on sait très bien, comme on le disait, la pub n'a que des désavantages, je suis d'accord sur ce point. Elle paye très 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 peu, même quand on a des millions de vues. Et il y a beaucoup de ces blogueurs et youtubeurs qui se font rémunérer avec des contrats, avec des sponsors, qui font une sorte de publi rédactionnel sur leur site ou sur leur chaîne. Ce qui est un petit peu désolant, voire limite, c'est que ça n'est pas clairement annoncé. Et d'ailleurs, ça n'est pas annoncé du tout. Donc parfois ça se voit, parfois ça se voit moins. Et c'est de la publicité... je ne sais plus quel est le terme officiel, publicité camouflée, publicité cachée. Ça, ce n'est pas hyper cachère.
Mais alors, moi, je vais te dire, c'est toi qui as des lunettes roses sur les yeux. Parce que c'est quoi la différence entre ça et elle et tous ces magazines très connus qui, finalement, si on est annonceur, on a après des revues de nos produits directement dans les pages non publicitées où ce n'est pas marqué sponsorisé par la pub. Donc, cette espèce de no man's land, il existe dans la presse écrite depuis la nuit des temps. Donc voilà, ils reproduisent un modèle.
Je crois que la différence, c'est que dans ce modèle dont tu parles, les annonceurs payent pour la pub et puis ensuite récupèrent un truc en plus, alors que dans les modèles dont on parle là pour les youtubeurs et les blogueurs, ils payent pour un truc qui est présenté comme quelque chose qui n'est pas de la pub. C'est comme si dans un journal, dans Elle, il y avait un article sur les derniers rouges à lèvres de chez Dior, qui était écrit par un rédacteur qui disait « J'ai testé les nouveaux trucs de chez machin et ils sont super bien, ils sont comme ci, ils sont comme ça. » Et cet article est payé par l'annonceur, tu vois. Il y a une petite différence quand même quand un annonceur paye pour quelque chose et que ça directement pour quelque chose. Même si parfois c'est payé par des moyens un petit peu détournés ou tu vois, il y a quand même une différence.
Je suis d'accord avec toi, mais l'impact est le même. C'est-à-dire, je vais faire croire au consommateur, parce que moi c'est plus ça, je vais faire croire au consommateur que je mets ce produit en avant et que je suis éthique parce que je suis éthique, alors que je le mets en avant juste parce que cet annonceur a acheté pour 100 000, voire plus d'euros de pub dans mon journal. Donc,
je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, à la limite, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais. C'est pas parce qu'il y a des exemples où on a le même résultat ailleurs qu'il faut abandonner le principe.
On est la nouvelle économie, on est supposé faire mieux. Alors là, je te rejoins.
Non, c'est même pas mieux, mais au moins, disons pas pire. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est vrai.
Faisons pas pire.
C'est vrai.
Tim Cook a été nommé personne de l'année par le Financial Times pour ses standards éthiques et sa performance financière. C'est une nomination que je voulais mentionner pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il a effectivement insufflé plus d'éthique dans un Apple qui n'en avait pas autant qu'on pouvait l'espérer. Et quand on parle de l'éthique, là, on parle simplement de donations à des fondations caritatives ou ce genre de choses. Son annonce selon laquelle il était homosexuel et la manière dont ça s'est passé, on en parlait il y a un ou deux épisodes. Et puis aussi, il a réussi un pari quasiment impossible qui était le fait de satisfaire un petit peu tout le monde, mais un petit peu tout le monde, en faisant suite à Steve Jobs. Il n'y a pas eu d'immense révolution depuis qu'il est arrivé, mais il n'empêche qu'il n'a pas mis les choses par terre alors que certains auraient pu le craindre. Donc, ses forces ne sont pas les mêmes que celles de Steve Jobs, mais il est certain que Apple n'a jamais été aussi fort que sous Tim Cook. Et si on en parle au niveau financier, bien sûr, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Donc,
Moi, je trouve bien. C'est vrai qu'il a fait des bonnes choses. Venir après Dieu, c'est toujours difficile.
C'est ça.
Et il avait cette difficile mission que tout le monde lui disait qu'il lui avait bien savonné la planche pour qu'il se plante. Moi, ce que je trouve qu'il a fait du bon travail. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il a donné de la visibilité à ceux qui n'en avaient pas. C'est vrai qu'avant, Dieu avait la visibilité et les autres peu. Et là, on a vu d'autres personnages se développer à l'intérieur d'Apple qui sont tout aussi compétents que lui et qui prennent aussi de la place. Et ils partagent plus la vedette, on dirait. Et sur son, moi, j'ai trouvé génial sa communication sur son homosexualité, parce que je pense que c'est vraiment ce genre de choses qui vont aider d'autres personnes à se rendre compte que des grandes personnalités du monde de la tech et du monde des médias sont homosexuels. Ça, j'ai trouvé vraiment bien. Et comme il l'a fait aussi, très ouvert, en écrivant je pense qu'il le mérite. Donc, bravo Tim Cook.
BitTorrent a sorti va lancer une version alpha d'un navigateur d'un nouveau genre, qui est un navigateur distribué, qui s'appelle Maelstrom. Et en fait, c'est un navigateur web, un petit peu comparable à ce qu'on a aujourd'hui, sauf qu'il ne se base pas sur une architecture client-serveur où vous n'irez pas sur un serveur central pour afficher votre page web, mais où les fichiers et les sites seront distribués comme des torrents, c'est-à-dire sur les ordinateurs des autres utilisateurs. C'est une technique intéressante. Oui. Évidemment, il y a énormément de challenges à ce niveau-là. Ils ne sont pas les seuls à étudier la possibilité d'avoir un web décentralisé, mais là, ça pourrait être un gros morceau, et c'est quelque chose qu'il faudra suivre, parce que le web décentralisé pourrait réaliser des promesses vraiment dans différents domaines, et des choses vraiment intéressantes, comme le fait, par exemple, de ne pas pouvoir bloquer quelque chose, ou de ne pas pouvoir supprimer un contenu du web, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, évidemment.
Ouais. Tu parlais de net neutrality, de dire les États veulent légiférer, les États veulent avoir des règles beaucoup plus pour forcer un peu leur avis dans le monde du web. Et ça, pour moi, c'est une réponse directe à ce genre de choses où on va pouvoir redonner la liberté au web et avoir le contenu qu'on veut, où on veut. Et ça, je trouve super intéressant. J'adore ce genre d'initiative. Ça paraît rien comme ça, mais si ça prend, ça peut devenir vraiment incroyable.
Oui, il y a des opportunités très intéressantes dans le domaine. Je ne sais pas si ça pourrait être immunisé contre le blocage de certains streams de données, mais c'est une piste intéressante. Google voudrait créer des nouvelles versions de ses produits qui pourraient être utilisées par les enfants de moins de 12 ans. Alors, on en avait parlé au moment où Facebook avait annoncé la même chose. Et il y a le débat, genre, est-ce qu'ils veulent conquérir un nouveau public, attraper les enfants quand ils sont encore suffisamment jeunes pour former leur esprit malléable à l'utilisation de Google, comme c'était le cas avec Facebook, ou simplement, est-ce qu'on se dit, ils utilisent déjà Internet de toute façon, donc autant essayer de faire les choses bien pour qu'ils puissent l'utiliser avec un peu plus de sécurité, de manière un petit peu plus adaptée. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Et enfin, on va pas faire tout le débat sur Uber, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé ces derniers épisodes, mais sachez simplement que Uber fait encore les gros titres, d'une part avec cette histoire de chauffeur Uber qui a violé une passagère en Inde, des histoires qui ont couru sur le processus de screening, de filtre de ces chauffeurs qui étaient assez mal informés justement, parce qu'il faisait, ironiquement, il faisait les choses bien en Inde, mais c'est très difficile de bien faire les choses en Inde parce qu'il n'y a pas de système administratif d'information suffisant pour bien gérer les choses. Ils sont bannis, ils sont interdits de pratiquer en Espagne, en Thaïlande, ils sont en procès à Portland, ils sont ennuyés à Rio. Il y a une vague d'arrestations en France chez les chauffeurs de Uber Pop, qui est un service encore plus limite que Uber classique, parce qu'ils disent que c'est un service de covoiturage, alors que les chauffeurs Uber Pop facturent avec le compteur. Donc, c'est pas vraiment un service de covoiturage, c'est plus comparable à un service de taxi. Et là, évidemment, ce sont des gens comme vous et moi, qui l'utilisent. Donc, c'est encore plus à la limite de l'illégalité. Certains diraient qu'ils sont déjà en plein dedans. Et puis, on a cette grève des taxis qui, non contents de faire la grève par rapport à Uberpop, hein, là encore, ce service dont je viens de parler, non contents de faire la grève, se sont mis à bloquer les taxis aujourd'hui. Les taxis se sont mis à bloquer les aéroports en France. Et ça a provoqué un foutoir effroyable. Je ne vais pas me lancer dans cette discussion, mais
moi, ce qui m'hallucine.
Et entre parenthèses, le gouvernement a déclaré que Uberpop, contrairement à ce qui avait été dit par le tribunal pour une question technique, Uberpop serait effectivement interdit le 1er janvier 2015. Donc, les taxis n'avaient pas besoin de faire la grève ou de protester de cette manière.
Moi, quand j'entends toutes ces news, je me dis. J'avais sous-estimé la puissance des lobbies des taxis dans le monde entier. Et pas seulement aux États-Unis, pas seulement dans certaines villes, mais dans le monde entier. On voit que ce n'est pas seulement une problématique en France ou dans certains. C'est aussi en Inde. C'est partout où il y a des taxis. Il y a vraiment, moi j'appelle ça une mafia, une corporation énorme qui tient les politiques pour pouvoir et qui a créé des lois pour pouvoir se protéger. Et c'est alors on aime Uber ou pas, c'est vrai qu'ils sont limites des fois dans leurs actions, mais dans un monde de gangsters, on a intérêt à porter un flingue hein, parce que sinon on meurt.
Et mais écoute, je crois qu'ils ont bien compris la chose parce que effectivement il y a des choses limites chez Uber. Et il y a des choses à corriger, c'est évident, mais il est certain que les questions de lobbying sont importantes aussi. Et comme l'indique le Washington Post, Uber a commencé à comprendre les problèmes de lobbying et il semblerait qu'il soit en train de mobiliser un réseau de lobbying dans tous les pays où ils sont en danger, c'est-à-dire partout, et qu'ils soient en train de mettre beaucoup d'argent derrière ces efforts de lobbying. Donc, je crois qu'il y a des choses... Enfin, en tout cas, ils ont compris comment ça marche, enfin, à ce niveau-là. Il n'est pas dit s'ils ont compris qu'ils étaient... fallait peut-être faire les choses de manière un petit peu plus sérieuse maintenant qu'ils étaient aussi gros. Ça, on verra dans les mois qui viennent.
Mais de toute façon, quand le consommateur plébiscite quelque chose qu'il aime, que ça soit un Uber, que ça soit un Airbnb, c'est très difficile de faire machine arrière. On le voit avec des Pirate Bay et autres. Et je pense que Uber, voilà, c'est plébiscité par les utilisateurs parce que c'est simple, parce que c'est plus cool à utiliser. Et finalement, on va y arriver. Donc,
ouais. C'est peut-être la question donnée la plus importante dans tout ça. T'as pas tort. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est la fin de ces news et rumeurs et donc la fin de cet épisode. Il y a tout un tas de news supplémentaires qui sont en stock. J'en ai combien ? Une bonne cinquantaine. Wow. Si vous avez accès aux notes de l'émission grâce au Patriot.
On voit que tu fais ça professionnellement maintenant. Hein ? Avant, il y avait déjà beaucoup de news, mais maintenant, il y en a énorme.
Ouais, non mais c'est ce que je disais. Bah maintenant en plus, j'ai vraiment le temps puisque c'est mon travail. Maintenant, j'ai vraiment le temps donc je fais ça encore plus sérieusement qu'avant et pourtant vous le savez, j'étais assez sérieux avant déjà. Donc si vous verrez toutes ces notes, ça peut vous faire votre mini veille si vous avez accès aux notes de l'émission aussi. Dans tous les cas, l'essentiel a été présenté dans cet épisode et puis on sera de retour dans 15 jours pour l'épisode spécial référencement et puis au-delà en janvier pour l'épisode qui parlera très certainement du CES de Las Vegas, la grande messe de la technologie et de l'informatique. Et puis quand même, entre-temps, il faut quand même que vous alliez écouter un petit peu de Mike ailleurs. Dis-nous où on peut te retrouver, Mike.
Ouais, vous pouvez me retrouver déjà sur Twitter à SYDE, Side, comme ça a été mon nickname depuis que je suis tout enfant, donc je l'ai gardé sur Twitter. Et sinon, je fais partie de la famille Nipcast, NIPCAST, et voilà, on édite plusieurs podcasts, dont NipTech, dont NipSales, NipLive, NipDev, NipSport, enfin plein de différents podcasts. Bien sûr, je ne suis pas tout seul avec une bande de joyeux lurons qui aiment mon latin. Donc voilà, vous pouvez aller nous voir sur nipcast.com.
Super, merci beaucoup Mike. Et pour ma part, vous le savez, c'est sur twitter.com/notepatrick. Vous pouvez aussi aller sur frenchspin.fr où vous découvrirez tout plein d'autres émissions et notamment le rendez-vous jeu qui a une approche assez sérieuse des news de jeux vidéo, mais bon, quand même assez fun parce qu'on parle de jeux vidéo. Et si vous aimez le rendez-vous tech et que vous aimez les jeux vidéo, que ça vous intéresse un petit peu en tout cas, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil au rendez-vous jeu parce que c'est vraiment une émission qui je pense, vous plaira. Donc tout ça, c'est sur frenchspin.fr. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur cet épisode si on a dit des bêtises, des choses qui vous ont plu ou pas plu. Vous pouvez venir nous le faire savoir sur frenchspin.fr. Et enfin, sur Patreon, il y a les liens partout, dans les notes du podcast, sur le site, partout. Si vous voulez soutenir l'émission financièrement et me payer mon salaire, vous pouvez y aller aussi. Et comme je le dis souvent, j'ai été hyper heureux de la réaction du public, la réaction des auditeurs, de votre réaction à tous quand j'ai annoncé que je devenais podcasteur professionnel. Donc je suis comblé, j'adore mes patrons, je suis aux anges. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Donc voilà, merci encore à tous mes patrons et comme c'est le dernier épisode que j'enregistre avant le spécial, avant Noël, oui c'est le dernier épisode avant Noël vraiment, je vous souhaite à tous vraiment un excellent et très joyeux Noël. En particulier, bon, je suis désolé, hein, je ne peux pas m'empêcher, en particulier à vous tous qui contribuez financièrement au succès de l'émission, parce que si moi je peux avoir un Noël vraiment joyeux et heureux aussi, si je peux payer ma bûche de Noël et payer des cadeaux à mes parents et à ma femme et à ma famille, et ben c'est grâce à vous, parce que vous êtes mes patrons et que c'est vous qui payez mon salaire. Donc voilà, encore une fois un immense merci, joyeux Noël à tous et puis grosse bise, que vous soyez patriote ou pas, si vous entendez le son de ma voix, je vous fais un gros bisou. Ciao à tous, à la prochaine.
Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.